toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne, se découpaient sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Puis, il se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait. Et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Une négresse, coiffée d'un foulard, se présenta en tenant par la main une petite fille déjà grande. L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Elle la prit sur ses genoux. Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle eût 7 ans bientôt. Sa mère ne l'aimerait plus. On lui pardonnait trop ses caprices. Et Frédéric se réjouissait d'entendre ces choses, comme s'il eût fait une découverte, une acquisition. Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être. Elle avait ramené des îles, cette négresse, avec elle. Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s'en couvrir les pieds, dormir dedans. Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il allait tomber dans l'eau, Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit « Je vous remercie, monsieur. » Leurs yeux se rencontrèrent. « Ma femme, es-tu prête ?» cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l'escalier. Mademoiselle Marthe courut vers lui, et cramponnée à son cou, elle tirait ses moustaches. Les sons d'une harpe retentirent, elle voulait voir la musique. Et bientôt le joueur d'instruments, amené par la négresse, entra dans les premières. Arnoux le reconnut pour un ancien modèle. Il le tutoya, ce qui surprit les assistants. Enfin, le harpiste rejeta ses longs cheveux derrière ses épaules, étendit les bras et se mit à jouer. C'était une romance orientale, où il était question de poignards, de fleurs et d'étoiles. L'homme en haillons chantait cela d'une voix mordante. Les battements de la machine coupaient la mélodie à fausse mesure. Ils pinçaient plus fort, les cordes vibraient, et leur son métallique semblait exhaler des sanglots, comme la plainte d'un amour orgueilleux et vaincu. Des deux côtés de la rivière, des bois s'inclinaient jusqu'au bord de l'eau. Un courant d'air frais passait. Madame Arnoux regardait au loin d'une manière vague. Quand la musique s'arrêta, elle remua les paupières plusieurs fois comme si elle sortait d'un songe. Le harpiste s'approcha d'eux humblement. Pendant qu'Arnoux cherchait de la monnaie, Frédéric allongea vers la casquette sa main fermée et l'ouvrant avec pudeur, il y déposa un louis d'or. Ce n'était pas la vanité qui le poussait à faire cette aumône devant elle, mais une pensée de bénédiction où il l'associait, un mouvement de cœur presque religieux. Arnoux, en lui montrant le chemin, l'engagea cordialement à descendre. Frédéric affirma qu'il venait de déjeuner. Il se mourait de faim, au contraire. Et il ne possédait plus un centime au fond de sa bourse. Ensuite, il songea qu'il avait bien le droit, comme un autre, de se tenir dans la chambre. Autour des tables rondes, des bourgeois mangeaient, un garçon de café circulait. Monsieur et Madame Arnoux étaient dans le fond, à droite. Il s'assit sur la longue banquette de velours, ayant ramassé un journal qui se trouvait là. Il devait, à Montereau, prendre la diligence de Chalon. Leur voyage en Suisse durerait 1 mois. Madame Arnoux blâma son mari de sa faiblesse pour son enfant. Il chuchota dans son oreille, une gracieuseté sans doute, car elle sourit. Puis, Il se dérangea pour fermer derrière son cou le rideau de la fenêtre. Le plafond, bas et tout blanc, rabattait une lumière crue. Frédéric, en face, distinguait l'ombre de Cécile. Elle trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Le médaillon de lapis-lazuli, attaché par une chaînette d'or à son poignet, de temps à autre sonnait contre son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant, n'avaient pas l'air de la remarquer. Quelquefois, par les hublots, on voyait glisser le flanc d'une barque qui accostait le navire pour prendre ou déposer des voyageurs. Les gens attablés se penchaient aux ouvertures et nommaient les pays riverains. Arnoux se plaignait de la cuisine. Il se récria considérablement devant l'addition et il la fit réduire. Puis il emmena le jeune homme à l'avant du bateau pour boire des grogs. Mais Frédéric s'en retourna bientôt sous la tente où Madame Arnoux était revenue. Elle lisait un mince volume à couverture grise. Les deux coins de sa bouche se relevaient par moments, et un éclair de plaisir illuminait son front. Il jalousa celui qui avait inventé ces choses dont elle paraissait occupée. Plus il la contemplait, plus il sentait entre elle et lui se creuser des abîmes. Il songeait qu'il faudrait la quitter tout à l'heure, irrévocablement, sans en avoir arraché une parole, sans lui laisser même un souvenir. Une plaine s'étendait à droite. À gauche, un herbage allait doucement rejoindre une colline où l'on apercevait des vignobles, des noyers, un moulin dans la verdure et des petits chemins au-delà, formant des zigzags sur la roche blanche qui touchait au bord du ciel. Quel bonheur de monter côte à côte, le bras autour de sa taille, pendant que sa robe balayait les feuilles jaunies en écoutant sa voix sous le rayonnement de ses yeux. Le bateau pouvait s'arrêter, il n'avait qu'à descendre, et cette chose bien simple n'était pas plus facile cependant que de remuer le soleil. Un peu plus loin, on découvrit un château à toit pointu avec des tourelles carrées. Un parterre de fleurs s'étalait devant sa façade, et des avenues s'enfonçaient comme des voûtes noires sous les hauts tilleuls. Il se la figura passant au bord des charmilles. À ce moment, une jeune dame et un jeune homme se montrèrent sur le perron, entre les caisses de rangée, puis tout disparut. La petite fille jouait autour de lui. Frédéric voulut la baiser. Elle se cacha derrière sa bonne. Sa mère la gronda de n'être pas aimable pour le monsieur qui avait sauvé son châle. Était-ce une ouverture indirecte ? « Va-t-elle enfin me parler ?» se demandait-il. Le temps pressait. Comment obtenir une invitation chez Arnoux ? Et il n'imagina rien de mieux que de lui faire remarquer la couleur de l'automne, en ajoutant « Voilà bientôt l'hiver, la saison des bals et des dîners. » Mais Arnoux était tout occupé de ses bagages. La côte de survie l'apparut, les deux ponts se rapprochaient,